Bonjour, Éric Godichaud, à Bâton Rompu, sur Radio Grand Ciel. Aujourd'hui, les oiseaux. Une actualité pour commencer. 20% des oiseaux auraient disparu à cause des produits toxiques épandus dans les champs. Notre émission sera donc comme une petite arche, avant leur extinction si on ne fait rien. Il exagère quand même, on n'en est pas là. Mais pensons aux papillons qui sont les petits frères des oiseaux fragiles et délicats. Je me rappelle enfant des vols entiers lorsque j'étais gosse. La nuit, ces spécimens gigantesques, les grands sphinx, à chaque promenade, maintenant si l'on croise un papillon ou deux, c'est miraculeux. Alors, prenons un peu d'altitude et voyageons avec nos frères, les petits oiseaux. C'est ainsi, l'homme à la préhistoire a imité les oiseaux. De leur observation, mi-amusée, mi-émerveillée, ils en ont tiré deux pivots de notre culture, la musique et la danse. Le plus vieil instrument de musique est la flûte. En jouer, c'est chanter à la manière des oiseaux. Les oiseaux n'ont pas de corde vocale. Ils ont à l'intérieur de leur gorge un minuscule sifflet appelé syrinx. Même chose pour la danse. Les premiers hommes ont imité les parades nuptiales des oiseaux. Les oiseaux, comme nous, émettent des signes. Et chez eux, les signes consistent à s'ébouriffer pour rendre leur plumage plus volumineux, faire la roue, exhiber un maximum de couleurs qui attirent leurs congénères. En hommage aux oiseaux déjà disparus, comme le dodo, ou familier, imaginaire, envolons-nous pour cette excursion aérienne. Dans le ciel toujours bleu, bleu roi de Radio Grand Ciel. Tous les matins, en me levant, le soleil n'est pas encore très brillant. Un silence empli de fraîcheur, bruit sans un bruit, comme une cloche en bois, la sourdine d'un instrument à vent. Puis soudain, les pépiments apparaissent, jusqu'à devenir très forts. Je les traduis. Joie d'un nouveau jour, joie des oiseaux, et comme dirait saint François, nos petits frères remercient leur frère le soleil. Pour reprendre notre ouverture, la tonalité des chants mélancoliques, je vais vous lire un poème intitulé « Le dodo ». Cet oiseau disparu en quelques décennies, que les premiers colons, arrivés sur l'île Maurice, décimèrent en quelques années, en les rôtissant comme de vulgaires poulets. Pas difficile à attraper, les bêtes. Ils ne volaient pas. Le dodo. Ce joli nom fleurbond les lits d'autrefois recouverts de drap blanc, amidonné d'un édredon cerise, de traversins, dont il faut huir le passage qu'ils opèrent. Traverser jusqu'à l'océan l'écume des pommiers en fleurs, à l'ombre des jeunes filles, évoque les petites mamelles bleues gonflées. Aussi, cet oiseau amusant, un peu rêveur, qui prospéra sur l'île Maurice, fut décimé en quelques années par les Européens. Le dodo dormait debout et ne se méfiait pas. Il ne reste de ce joli et sympathique volatile qu'une reconstitution en résine au Muséum d'Histoire Naturelle, quelques gravures colorées et surannées. Comme un rêve, le dodo ne survit que dans les pensées des poètes et des simples d'esprit.
Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of a dark black night. Singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
Comme notre émission est aussi une émission littéraire, je me suis amusé à chercher dans le dictionnaire des onomatopées, un des nombreux dictionnaires qui composent ma bibliothèque, des exemples servant à imiter le chant des oiseaux. Retour à l'envoyeur. Après avoir, à travers la musique et la danse, montré que l'homme imitait les oiseaux, imitons par le langage le chant des oiseaux, avant de laisser parler le grand Buffon à propos des rouges-gorges. Jules Renard, dans « Poil de carotte », nous parle de la bécasse. C'était un mets de roi fin du 19e, début du 20e. Nous ferons lever les bécasses, et quand tu entendras « pit, pit », dresse l'oreille. Le Bouvreuil, chez Audi Berti, dans un livre « Côte, côte ». Je vous enseignerai à distinguer le sifflet du Bouvreuil de celui du pinson. L'un fait « tsou tsou », l'autre fait « chut chut ». Paul Claudel, dans son journal, rend hommage au cri du chat-huant qui hantait les nuits de nos grands-parents avec une espèce de cri strident et étranglé. Le cri du huant, dit-il, « ti, ti, ti ». L'on voit bien, enfin on entend bien, qu'il n'y a aucun rapport direct entre l'onomatopée et le chant d'oiseau qu'il est censé traduire. Ce n'est qu'une transposition. Le nom, comme l'indique dans une de ses thèses du Cratyle Platon, ne sont que des conventions. Des siècles plus tard, l'inventeur de la linguistique parlera de l'arbitraire du signe. Les noms, selon la seconde thèse, auraient un rapport avec la chose qu'ils désignent. C'est la poésie qui fructifie autour de cette croyance, que les mots reflèteraient d'une manière ou d'une autre ce qu'ils semblent indiquer. Reflet semblant, on est dans une croyance plutôt qu'une vérité. Le grand musicien baroque Rameau, lui, s'est amusé à faire un portrait musical de la poule. Alors venons-en à Buffon. Buffon était reconnu à juste titre et ses œuvres complètes faisaient partie de la bibliothèque d'un grand écrivain comme Flaubert. A dans ses œuvres complètes consacré de très belles pages aux oiseaux qui nous entourent, ceci par la grâce d'un style aussi brillant que celui d'un Saint-Simon ou d'un Proust. Écoutons-le parler du rouge-gorge. Il n'est pas d'oiseau plus matinal que celui-ci. Le rouge-gorge est le premier éveillé dans les bois et se fait entendre dès l'aube du jour. Il est aussi le dernier qu'on y tende et qu'on y voit voltiger le soir. Il est peu défiant, facile à émouvoir, et son inquiétude ou sa curiosité fait qu'il donne aisément dans tous les pièges. C'est toujours le premier oiseau qu'on prend à la piper. La voix seule des pipeurs ou le bruissement qu'ils font en taillant des branches l'attire, il vient derrière eux se prendre à la sauterelle ou au gluau, presque aussitôt qu'on l'a posé. Il répond également à la peau de la chouette et au son d'une feuille de lierre percée. Il suffit même d'imiter, en suçant le doigt, son petit cri « huip, huip » ou de faire crier quelque oiseau pour mettre en mouvement tous les rouges-gorges des environs. Ils viennent, en faisant de loin entendre leur cri « tiri, tiri-titi, tiri-titit » d'un timbre sonore qui n'est point leur chant modulé, mais celui qu'ils font le matin et le soir, et dans toute occasion où ils sont émus par quelque objet nouveau. À la suite de Buffon, une petite interview dans un café avec François Collin du Muséum d'Histoire Naturelle de Chartres.
Alors, je suis place du Cygne ce matin, ce qui semble logique pour parler des oiseaux. Et je prends un café, le meilleur de Chartres d'ailleurs, en la compagnie de François Collin, qui est conservateur du Muséum d'Histoire Naturelle de Chartres.
Pas c'est conservateur,
non.
Bon, je dirige ce qui reste du muséum.
Ouais. Donc, bonjour. Et donc, il est toujours intéressant de poser des questions que pourraient poser les enfants. Donc, nous allons poser des questions sur les oiseaux. Donc ma première question sera celle-ci. Qu'ont apporté les oiseaux dans l'histoire de l'évolution des espèces et c'est quoi un oiseau?
Alors un oiseau, c'est un animal dont le corps est couvert de plumes. C'est la seule famille où ces animaux ont des plumes. Quand on voit un oiseau, qu'est-ce qui différencie des autres espèces, des autres familles? Les plumes. Qu'est-ce qu'ont apporté les oiseaux? Pas plus que les autres espèces, si on se réfère à des valeurs humaines.
Alors, existe-t-il, comme chez certains poissons, des oiseaux qui seraient un peu ce qu'on appelle des fossiles vivants?
Oui, il y en a un, si ma mémoire est bonne, cet oiseau, c'est le quetzal, qui est un oiseau d'Amérique centrale, dont les doigts, qui forment les ailes, sortent encore et ces doigts sont porteurs de griffes.
C'est un animal qui est représenté chez les Aztèques.
Chez les Aztèques, et c'était le dieu Quetzalcoatl.
Ah oui. Donc, est-il vrai que les os des oiseaux sont creux, pneumatiques, on pourrait dire, pour leur permettre d'être plus légers et mieux voler?
Absolument. Un os d'oiseau, c'est comme une pompe à vélo. C'est chargé d'air et ça leur permet justement d'être très légers par rapport à leur volume.
Alors, le chant des oiseaux est-il le même pour tous les individus de chaque espèce ou y a-t-il une part de création, ce qui correspondrait grosso modo à une langue parlée dans une zone géographique déterminée?
Alors là, c'est un vaste problème parce que on ne doit pas généraliser toutes les familles d'oiseaux. Il y a des oiseaux dont le langage est stéréotypé, ceux dont le cri, le chant est certainement un des plus mélodieux, tels que le merle dans nos régions, par exemple. Et si on traduit la très jolie mélodie donc du merle, ça veut dire, en gros, pardonnez-moi, je vais être un petit peu grossier, ça veut dire qu'à ce stade-là, sinon je te fous mon pied dans le cul parce que t'es chez moi.
Ah oui, c'est lié au territoire.
Oui, tout à fait. En revanche, il y a plusieurs familles d'oiseaux, dont une est présente en Eure-et-Loire, qui ont des facultés d'imitation d'autres bruits. Alors, évidemment, tout le monde connaît les perroquets et les ménates.
Les perroquets, c'est extraordinaire.
Et en revanche, en Eure-et-Loire, eh bien, nous avons une famille dont les oiseaux sont des imitateurs, non pas au même titre que les perroquets ou les ménates, mais bon, si, c'est la famille des corvidés. Et chez les corvidés imitateurs, en Eure-et-Loire, eh bien, il y a le geai et la pie à moindre mesure. Mais ce sont des oiseaux qui imitent des bruits autre que leur chant habituel.
La pie, c'est une imitatrice.
Oui, tout à fait.
Moi, je pensais qu'elle faisait toujours ce bruit
horrible. Non, 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 non. Se référer à Les Bijoux de la Castafiore, album de Tintin,
ah,
où
oui,
la
vrai,
pie,
pie voleuse.
Vole et imite certains bruits.
Est-ce que les poules ont eu des ancêtres connus et ont-elles toujours été incapables de voler?
Alors les poules, la poule domestique est une poule sauvage qu'on a traficotée génétiquement pour qu'elle soit plus grosse, donc pour qu'il y ait plus à manger dedans. Et moi j'ai eu la chance de voir des vraies poules sauvages qui sont les ancêtres de nos poules domestiques. Ces vraies poules sauvages vivent encore dans l'Himalaya et elles volent très très bien, elles volent à peu près comme volent les faisans. Donc, chez les poules domestiques, il y a les poules naines, et les poules naines volent assez bien. Évidemment, les gros B-52 volent nettement moins bien. Mais chez les poules domestiques, il y a encore des espèces qui sont, on va dire, de bons voiliers.
Donc les poules naines, elles sont plus proches
des
ancêtres.
Tout à fait.
Voilà. Une question pour nos auditeurs, c'est une question qu'on pose souvent, doit-on nourrir les oiseaux en hiver?
Moi, je suis partisan de dire oui. Car contrairement à ce que prétendent des écolos de bureau ou de studio, le fait de les nourrir en hiver ne change en rien leur comportement. Ils sont tout à fait aptes à se re-nourrir de façon normale quand le printemps arrive. Et bon, moi je constate que des oiseaux que l'on nourrit en hiver cessent totalement de prendre cette nourriture qu'on leur donne à partir de, on va dire, du mois de mars et retournent à leur alimentation tout à fait normale et naturelle. Et les gens qui préconisent de ne pas nourrir les oiseaux en hiver, je serais volontiers partisan de les lâcher nus en forêt avec un couteau en hiver et de leur dire « débrouille-toi pour trouver ta nourriture ».
Oui.
Voilà. C'est une... ça n'engage que moi.
Oui, mais c'est pas faux. Est-il vrai que les oiseaux insectivores sont en train de disparaître en France et plus particulièrement en Eure-et-Loire?
Alors de disparaître, c'est peut-être un bien grand mot parce que on ne peut pas encore prévoir ce qu'il y aura dans l'avenir, mais il y a une raréfaction importante et inquiétante chez beaucoup d'oiseaux insectivores. La cause en est bien sûr la raréfaction des insectes
bah oui.
À cause de produits insecticides répandus aussi bien, je précise, aussi bien chez dans nos habitations que en zone agricole. Mais il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos des agriculteurs. C'est vrai que leurs produits sont dangereux, ils le savent eux-mêmes. Certains
protègent,
certains ont eu une prise de conscience, d'autres peut-être un peu moins, mais il est indéniable que nos oiseaux insectivores sont en raréfaction inquiétante.
C'est un peu triste. C'est comme les papillons. Moi, j'ai le souvenir enfant d'avoir vu des volontiers de papillons.
Oui.
On voit plus ça. En tout cas, pas en Europe.
Mais on voit beaucoup plus beau maintenant sur un ordinateur. On vit dans un monde complètement virtuel. Ouais. Et ce qui se passe à notre porte, en gros, on s'en fiche. Voilà.
Bien, je vous remercie.
Mais non,
puis,
c'est un plaisir.
Peut-être à bientôt.
Avec plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Au début de notre émission, nous parlions des oiseaux qui malheureusement disparaissaient. J'ai dans ma bibliothèque un joli livre relié rouge du 19e siècle, intitulé, quel joli titre, « L'esprit des oiseaux ». Dans ce livre, l'auteur nous renseigne sur une certaine intelligence des oiseaux et à un moment fait l'inventaire quasi complet des noms d'oiseaux. Il y a une grande poésie à ces listes. Car juste dans la recension de leurs noms, on trouve une émotion, une manière de régler le nuage denté de leur vie, la légèreté et la beauté de ces êtres qui parcourent le ciel à la manière des étoiles filantes. Ces listes ont quelque chose de triste, car certains, comme les papillons dont j'ai vu enfant des volontiers, ont disparu, ne sont plus présents qu'à travers leurs noms, seule trace de leur beauté éteinte. Voilà une de ces listes, celle des passereaux tels que Cuvier l'adopte. La pigrièche grise, le gobe-mouche, le gobe-mouche à collier, le bec-figue, le jaseur, le merle bleu, le merle de roche, le merle à plastron, le sinil plongeur ou merle d'eau, le martin roselli ou merle rose, le chocard, le loriot, le bec fin, le traquépâtre, le tarier, le moteux ou cublon, le traqué rieur, le traqué strapazin, le rouge-gorge bleu, oh, il est marrant celui-là, le rouge-gorge noir ou rossignol des murailles, le rouge-queue, la fauvette rossignole, la fauvette rousserolle, la fauvette locustelle, la fauvette, la verderolle, la fauvette orphée, la fauvette à moustache noire. Bon, on s'arrête là. Décapiter les oiseaux est une entreprise si funeste, si terrible, que bon nombre d'adeptes y perdent eux-mêmes leur tête. Par oiseaux, on entend ceux qui volent dotés de plumes. Les oiseaux de basse-cour, les autruches n'en font pas partie. Ce sont les oiseaux du bas. Il faut chercher, lever la tête. Au filet, attraper en plein vol les oiseaux, les démêler, les laisser prendre dans un bain de résine. Et lorsque la résine durcit, les oiseaux prennent la forme de petits poissons, illustrant la maxime « les oiseaux nageront et les poissons voleront ». J'entends d'ici, mais il aime tant les oiseaux, s'il aime tant les oiseaux, pourquoi les décapiter? C'est une fantaisie. Hein. Et puis, le monde, eh bien, il est mêlé. Amour et haine, vie et mort, malheur et bonheur, ou l'inverse, je ne me rappelle plus. Alors le dernier mot, la dernière note, je la donnerai au grand Jacques Prévert, trop souvent catalogué dans le ghetto des poèmes pour enfants, qui est tout simplement, sans chichi, un grand poète. Vous verrez, il vous parlera des oiseaux, de ceux qui veulent les imiter, les hommes. Et les oiseaux, il les mettra une fois pour toutes du côté de la vie avec son envol contre la lourdeur du monde. Le baptême de l'air. Cette rue, autrefois, on l'appelait la rue du Luxembourg à cause du jardin. Aujourd'hui, on l'appelle la rue Guynemer à cause d'un aviateur mort à la guerre. Pourtant, cette rue, c'est toujours la même rue. C'est toujours le même jardin, C'est toujours le Luxembourg, avec les terrasses, les statues, les bassins, avec les arbres, avec les oiseaux vivants, avec les enfants, tous les enfants vivants. Alors on se demande vraiment ce qu'un aviateur mort vient foutre là-dedans.
Mettons de l'ordre, faisons-leur une surprise. Ils me permettront peut-être de rester. Vous, vous ferez la vaisselle. Vous, vous rangerez la pièce. Vous, vous époussetterez la cheminée. Et moi, je prends le balai.
Ça me rappelle mes grands-parents à Bègles. Je plante le tableau. Petite maison comme celle de Picassiette, juste un peu plus grande. Et un très, 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 très grand jardin étiré comme un lézard en plein soleil. Le chemin le plus court du producteur au consommateur. Ce midi, dit ma grand-mère, qu'on appelait mamée, on mangera une poule. Elle repère là-bas une petite rousse. Elle lui saute dessus. Elle l'accroche par les pattes avec un raffia le long du grillage, puis, quick, à l'aide du couteau, lui tranche la gorge, soubresaut. Quelques heures plus tard, l'odeur paradisiaque emplissait la petite cuisine. Il ne me reste plus qu'à vous lire une recette de cuisine d'écaille, telle que nous l'a fait goûter Charles Diguet dans son fameux guide du chasseur, véritable bible au XIXe siècle, de l'honnête chasseur, et qui se termine par cette recette ancienne. Véritable Bible au 19e, de l'honnête chasseur, et qui se termine par cette recette ancienne. La caille, gibier de premier choix, la caille doit être mangée fraîche. Plumez-la avec grand soin, de peur de la déchirer. Flambez-la légèrement et mettez-la à la broche ou sur le grill, enveloppée de feuilles de vigne graissées de beurre frais, sur lequel vous mettrez une pincée de sel et de poivre. Au-dessous de la caille, mettez une belle rôtie de mie de pain de 6 cm d'épaisseur, légèrement beurrée. 20 minutes de cuisson, la marouette se prépare de même. Eh bien, nous remercions tous les oiseaux, toutes les personnes qui ont participé à l'émission, François Collin, et à bientôt, au mois prochain.